La lecture du texte de la Transfiguration, nous le faisons deux fois dans l'année, en tout cas pour cette année. Aujourd'hui, et nous reprendrons peut-être dans l'Évangile de Luc, au mois d'août, le jour de la fête de la Transfiguration, ce même moment important de la vie de Jésus. Aujourd'hui, au cœur du carême, nous sommes invités à regarder ce texte, à contempler ce qui se passe, en repérant ce qui pour nous est de l'ordre de notre vocation missionnaire. Et c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous. Comment ce texte peut-il être pour nous le moyen de faire grandir en nous notre être de disciples missionnaires, et comment ce texte nous aide à avancer vers notre vocation baptismale et vers Pâques. Peut-être que la clé de cette lecture se trouve dans la lecture qui a juste précédé, la deuxième lecture, la lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Notre vocation baptismale ne remonte pas donc simplement à notre baptême. Notre vocation baptismale s'inscrit dans l'histoire de l'Alliance, et nous l'avons chanté en chant d'entrée, dans l'histoire de l'Alliance au cours des siècles, depuis l'origine du monde. Notre vocation entre dans les pas des vocations de tous ceux qui nous ont précédés, à commencer par Abraham. Lech Lecha, quitte-toi toi-même, ou plutôt encore, entre en toi-même, au plus profond de toi-même, pour y découvrir qui tu es dans ta relation à toi-même, dans ta relation aux autres et dans la relation que tu entretiens avec Dieu. C'est pourquoi les textes sont reliés. Sinon, quel serait le sens de cette lecture ? Dans l'évangile de Matthieu, que nous venons de lire, la vocation de Jésus, celle de Messie, s'inscrit bien dans le cours de l'histoire humaine qui l'a précédée. Et Matthieu, c'est son originalité, veut insister sur le fait que Jésus apparaît à ses disciples sur la montagne comme le nouveau Moïse. Il les invite aussi à découvrir eux-mêmes leur vocation, qu'ils découvriront, en tout cas dans sa plénitude, au moment de la résurrection. Notre texte se situe donc à une intersection entre toute l'histoire de l'humanité qui vient se rassembler ici dans cet acte, et qui prendra sa pleine lumière au moment de la résurrection de Jésus le Christ. Il emmène trois de ses disciples sur la montagne. Il leur apparaît d'une blancheur qui n'existe pas, blanc comme la lumière. Son visage est brillant. Matthieu est le seul à insister sur cette brillance du visage, qui n'est pas sans rappeler celle de Moïse, qui, lorsqu'il descend de la montagne, a le visage illuminé de la rencontre qu'il a eue avec Dieu. Et un peu plus loin, nous découvrons que ce qui enveloppe les disciples ressemble bien à ce qui s'est passé pour le peuple dans le désert. Une nuée lumineuse les couvre de son ombre. Cette nuée les entoure et de cette nuée parle une voix. Cette nuée ici de la transfiguration rappelle la même nuée qui accompagnait le peuple dans le désert, le précédent pour lui indiquer le chemin, marchant à l'arrière pour le séparer de l'armée des Égyptiens lancée à la poursuite du peuple dans le désert. Cette nuée est lumineuse, encore une fois, la lumière est insistante. Et de cette nuée vient une voix. Et la voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » La traduction est un petit peu erronée. « En qui je trouve ma complaisance. » Cette voix parle. Et elle vient rappeler aux disciples ce qui déjà était donné comme élément essentiel dans le premier testament. Écoutez-le. Le écoute est bien la vocation première du disciple qui se met dans les pas de Jésus. Se mettre à l'écoute des disciples, se mettre à l'écoute des personnes autour de nous, se mettre à l'écoute de Dieu qui parle et qui donne quelque chose en nourriture spirituelle. Encore une fois, le texte vient rappeler que Jésus s'inscrit bien dans les pas de Moïse et qu'il apparaît désormais comme le nouveau Moïse venu pour le transcender. Les disciples tombent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Moïse, sur la montagne, au moment où il découvre sa vocation, est en train d'adorer Dieu au cœur du buisson ardent, le buisson qui ne se consume pas. Les disciples, regardant Jésus illuminé, se retrouvent face contre terre. Ils adorent le nouveau Messie, Dieu venu à leur rencontre. À la fin, ils ne virent plus personne sinon Jésus seul en levant les yeux. Ils lèvent les yeux, cela rappellera quelque chose qui interviendra après la résurrection. Les disciples de Jésus, au moment de l'ascension, lèvent les yeux vers le ciel, voyant partir Jésus, se perdre dans les nuages et dans le ciel. Ils laissent les yeux levés et ils perdent la vision de Jésus. Jésus les touche. Il vient leur redire que sa vocation à lui les concerne. Il vient leur dire que désormais, ils auront une mission à accomplir, celle de parler de cette vision une fois qu'il sera ressuscité. Il faut du temps, il faut le temps de l'attente, il faut du temps pour intégrer tout ce que Jésus leur donne, intégrer la personne de Jésus elle-même avant de pouvoir en parler. Nous, comme disciples, avançant dans ce temps de carême, nous sommes invités à recevoir pleinement la vie de Jésus mis en lumière avant de pouvoir l'annoncer, de pouvoir le crier à l'humanité tout entière et de dire son salut. Il nous faudra nous relever, il nous faudra ne plus avoir crainte, il faudra nous sentir concernés, nous sentir accompagnés par Jésus. Il nous faudra bien sûr descendre de la montagne de la transfiguration, reconnaître que tout se passe désormais dans le monde et non pas à l'écart, Et même si Pierre prend lui-même la parole disant « Je vais bâtir trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie », il nous faut suivre le même exemple, prendre soi-même l'initiative, non pas pour rester sur la montagne, mais pour redescendre et annoncer au monde ce soleil brillant, cette lumière intense qui vient à notre rencontre. Jésus reçoit sa mission pleinement. Il apparaît à ses disciples comme le nouveau Moïse, le transcendant même, pour être déjà, de son vivant, le ressuscité, de manière à ce qu'il puisse le reconnaître lorsqu'il ressuscitera vraiment après sa mort. La transfiguration est donc un événement capital, fondamental dans le parcours de Jésus, dans sa vie de mission au cœur du monde. Elle se situe souvent dans les évangiles à un moment charnière de la vie de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, on peut supposer que l'événement ait lieu en Galilée, mais que désormais il quittera la Galilée pour aller en terre plus lointaine et jusqu'à Jérusalem. Dans l'évangile de Luc, juste après la transfiguration, Jésus prend la décision de monter à Jérusalem. C'est le cœur de l'ensemble textuel de l'évangile de Luc. Avec Matthieu, nous insistons toujours sur cette dimension messianique reprise au cours des siècles suivant Abraham, Moïse et tous les prophètes. Élie apparaît ici, les prophètes. Moïse représentant bien la Torah, le don de la loi donné par Dieu au peuple élu. À notre tour de suivre les pas de Jésus pour apparaître nous-mêmes lumineux au cœur du monde, vivre nous-mêmes cette transfiguration à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie et que nous sommes au cœur du monde, lumière de Dieu pour éclairer les nations.